La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 11 avril, chez Robin Dorsil à Washington, accompagné de Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, République centrafricaine, tensions dans le nord-est et nouvelles violences à Bangui.
Trois hommes ont été froidement abattus hier au quartier d'Amala, non loin de l'aéroport, par des hommes armés assimilés aux anti-Balaka.
Un nouveau Premier ministre à Madagascar, Kolo Roger, un pas de plus vers la fin de la crise politique. En Ukraine, le gouvernement fait des concessions, mais les séparatistes restent mobilisés dans l'est du pays. Le président Barack Obama nomme nouveau ministre de la Santé. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
À Bria, dans le nord-est de la RCA, une partie de la population a manifesté ce matin contre la présence des forces africaines et françaises. Hier, deux éléments congolais de la MISCA ont été blessés et un civil tué dans des heurts opposant des hommes de l'ex-SEDECA aux forces internationales. Le point avec Idriss Fall.
Ce matin, la tension était encore palpable dans le centre de Bria. Des commerces sont fermés et la population est restée terrée chez elle. Hier soir, une patrouille de soldats africains appuyée par des militaires français de Sangaris a été prise à partie par des habitants hostiles à leur présence. Et plus tard, les forces internationales sont tombées dans une embuscade alors qu'elles retournaient à leur base près de l'aéroport de la ville. Les affrontements ont duré plus d'une heure et deux soldats de la MISCA, des Congolais de la RDC, ont été blessés. À Bangui, la capitale, trois hommes ont été froidement abattus hier au quartier d'Amala, non loin de l'aéroport, par des hommes armés assimilés aux anti-Balaka. Par ailleurs, les militaires tchadiens poursuivent leur retrait. Ils ont quitté les villes de Bossangawa, Kagabandoro et Bantangafo. Et l'ONU a donné hier son feu vert pour le déploiement de 12 000 casques bleus au plus tard le 15 septembre.
En Guinée-Bissau, jour J, moins 2 avant la tenue du scrutin présidentiel, presque 2 ans jour pour jour après le coup d'État, dimanche prochain, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président et des députés. Les détails avec Nicolas Pinault.
Oui, 13 candidats sont sur la ligne de départ, aucun favori ne semble se dégager. Le président par intérim Manuel Serifo Namadjo n'est pas candidat. Pour le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le plus grand parti, il espère que José Mario Vaz, son candidat, l'emportera. En 2012, le candidat du PAIGC, l'ancien Premier ministre Carlos Gomez Jr., avait été chassé par un coup d'État. Quant à l'ancien président Kumbayala, il est décédé la semaine dernière. Avant sa mort, il avait adoubé Nuno Gomez Nabian, qui se présente en indépendant. Le Parti de la Rénovation Sociale lui soutient officiellement Abel Inkada. Et pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, José Ramos Horta, il reste optimiste sur le bon déroulement du scrutin. La grande inconnue vient des militaires. Respecteront-ils le verdict des urnes ?
Madagascar a un nouveau Premier ministre. Après une attente de près de 3 mois, le choix du président Héry Rajaonarimampiane s'est porté sur Kolo Christophe Laurent Roger. La nomination d'un Premier ministre devrait faire avancer le processus pour mettre fin à des années de crise politique sur la Grande Île. C'était l'une des exigences de la Banque mondiale pour la reprise de l'aide suspendue depuis la prise du pouvoir par André Rajoel. Kolo Roger, qui est médecin de formation, qui exerçait à Genève, il a été parmi les premiers à soutenir l'actuel président malgache pendant la campagne électorale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama a annoncé aujourd'hui la nomination de Sylvia Burwell à la tête du département de la santé pour remplacer Kathleen Sebelius qui a démissionné. Nathalie Barge.
La démission de Kathleen Sebelius vient tout juste une semaine après la clôture des inscriptions au programme d'assurance santé privée instauré dans le cadre de la réforme du système de protection sociale, l'Obamacare. Cette réforme a été marquée par de nombreux problèmes techniques limitant l'accès à des millions de personnes au site internet gouvernemental ouvert fin 2013 pour les inscriptions. Et la plupart des républicains appelaient à la démission de la ministre de la Santé depuis des mois. aujourd'hui, Barack Obama a salué les progrès réalisés sous la direction de Mme Sebelius. Ce que l'histoire retiendra de Kathleen Sebelius, c'est qu'elle était ministre de la Santé quand les États-Unis ont finalement déclaré que les soins de santé de qualité à un prix abordable ne sont plus un privilège mais un droit pour tous les citoyens de ce pays. Sa remplaçante, Sylvia Matthews-Burwell, est la directrice du Bureau de la gestion et du budget. Madame Sebelius s'était fait remarquer par son absence la semaine dernière lors de l'annonce du président qui déclarait que l'opération de souscription à une assurance santé était finalement un succès, les quelques 7 millions d'inscriptions ayant dépassé les prévisions de l'administration Obama. Kathleen Sebelius, ancienne gouverneure du Kansas, était en poste depuis 5 ans. Elle avait été pressentie comme colistière lors de la présidentielle de 2008.
Toujours dans l'actualité internationale, crise ukrainienne, le gouvernement fait des concessions. Lionel Gaïma.
Le premier ministre par intérim, Arseniy Yatsenyuk, s'est rendu à Donetsk aujourd'hui où il a rencontré les gouverneurs et les maires de l'est du pays. Il s'est dit favorable à une modification de la constitution et des lois pour que les dirigeants régionaux ne soient plus nommés par le gouvernement central. Arseniy Yatsenyuk a également promis que personne ne serait autorisé à limiter le droit de parler russe en Ukraine. Autant des concessions annoncées alors que les manifestants pro-russes ignorent les requêtes du gouvernement. Menaçant de recourir à la force, Kiev leur donnait jusqu'à aujourd'hui pour quitter les bâtiments publics qu'ils occupent dans l'est du pays. Un ultimatum qui n'a pas été respecté par les séparatistes. Pourtant, le Premier ministre se dit optimiste concernant la résolution de la crise.
Les recherches se poursuivent dans l'océan Indien pour tenter de retrouver l'avion disparu de la Malaysia Airlines. Les autorités australiennes sont confiantes que les signaux récemment détectés proviennent de la boîte noire du Boeing 777. Elles pensent savoir où se trouve cette boîte noire. Elles les fouillent, se concentrent donc sur la zone concernée, a fait savoir le Premier ministre australien. Les experts sont à la recherche de nouveaux signaux.
Tragédie en Californie, à 250 km au nord de San Francisco, 10 personnes ont péri dans un accident entre un camion de la compagnie Federal Express et un bus transportant un groupe de lycéens. Les deux chauffeurs ont été tués sur le coup, ainsi que 5 élèves et 3 adultes qui les accompagnaient. Il y a eu plus de 30 blessés. Les élèves faisaient partie d'un groupe qui allait visiter un campus universitaire du nord de la Californie.
En Chine, Zhu Jiwan, l'un des plus éminents militants des droits de l'homme, passera 4 ans en prison. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême de Pékin en rejetant l'appel de la défense. Zhu Jiwan a été condamné en février pour rassemblement de foule en vue de troubler l'ordre public. Cet avocat luttait pour les droits des enfants à l'éducation et pour la divulgation des avoirs des fonctionnaires.
Hot Bleed est un virus qui fait beaucoup de ravages sur le net, mais de plus en plus de sites et services ont corrigé la faille de sécurité la plus dangereuse jamais identifiée. Camille Gros-Didier.
La faille baptisée Heartbleed a été découverte par des chercheurs de Google et d'une firme de sécurité informatique, Codenomicom. Elle affecte un logiciel d'encodage utilisé par un très grand nombre de sites Internet OpenSSL, censé faciliter le commerce électronique tout en protégeant des millions de mots de passe, numéros de carte de crédit et autres données confidentielles. Codenomicom affirme qu'une mise à jour réparant la faille de sécurité est déjà disponible. Le département américain de la sécurité intérieure a tiré la sonnette d'alarme cette semaine et a conseillé à toutes les entreprises de vérifier si leurs serveurs utilisaient une version vulnérable du logiciel. Cette faille inquiète d'autant plus qu'elle existe depuis déjà 2 ans environ. Difficile de déterminer l'ampleur des données qui ont pu être compromises. Il est conseillé aux usagers de modifier dans les plus brefs délais leur mot de passe, mais Christopher Burgess, patron de la société Prevenda Inc., une firme de sécurité Internet, avertit « Si l'entité sur laquelle vous changez votre mot de passe n'a pas encore mis à jour son SSL, le mot de passe est changé dans un environnement non sécurisé. » Le problème étant le serveur et non les sites Internet.
Voilà pour le journal. Il est 18h39 en temps universel, 14h39 à Washington, chez Ruben Dorcil, en compagnie de Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
«
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupée du sort de milliers de Centrafricains qui tentent de traverser la frontière entre la RCA et le Cameroun. Se basant sur les témoignages recueillis sur place, deux de ses représentants affirment que des civils ont été attaqués par des miliciens anti-Balaka. Jacques Aristide.
Sur la route de l'Exode, c'est le chaos. Le docteur Paul Spiegel, expert médical du HCR, témoigne, image à l'appui.
Ce que nous voyons ici, ce sont des réfugiés en train de marcher. Ce jour-là, plus de 1000 personnes ont traversé la frontière.
Le médecin a lui-même tourné cette vidéo alors qu'il se trouvait près du village camerounais de Gbiti, sur la rivière Bombé, qui sépare le Cameroun et la République centrafricaine. Elle montre des réfugiés traversant cette rivière pour se retrouver dans la partie camerounaise.
Sur les images, nous avons l'impression de voir les gens qui ont les genoux assez gonflés, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons ici, ce sont en fait les effets de la malnutrition. Pas seulement chez les enfants, mais les adultes aussi. Ils ont l'air très maigres, ils ont marché depuis 3 mois, certains de Bangui. Ils ont dû se cacher la nuit et se nourrir principalement de feuilles et boire de l'eau non potable.
Beaucoup de réfugiés ont également été blessés par balles ou à la machette, selon le docteur Spiegel, et d'ajouter que d'autres ont été contraints à faire de nombreux détours pour éviter les milices anti-Balaka qui bloquent les routes principales. Lise Awa coordonne la situation des réfugiés centrafricains pour le HCR. Elle a recueilli de nombreux témoignages en RCA, au Tchad et au Cameroun. Elle a rencontré des réfugiés et déplacés profondément traumatisés.
Qu'ils soient en exil ou dans leur propre pays, ce sont des gens pris au piège, pris dans un nid de vipères. Il n'y a pas d'issue pour le moment. Nous avons le devoir d'aider les centrafricains pour mettre fin à cette descente dans le chaos, cette descente aux enfers.
Le camp camerounais de Gbiti abrite déjà 15 000 réfugiés. Pourtant, il ne s'agit que d'un lieu de transit. Le HCR cherche à ériger des camps permanents et encourage les réfugiés à s'intégrer dans les communautés environnantes.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le ministère guinéen de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé et l'ONG Médecins sans frontières, toujours unis pour faire face à l'épidémie de fièvre Ebola qui s'est déclarée en février dans le sud-est de la Guinée. Camille Gros-Didier fait le point avec un porte-parole de l'OMS, Fadela Shaib.
Nous avons un total de 158 cas, dont 101 décès en Guinée. Certains ont été confirmés par un laboratoire, d'autres restent suspects. Il y a deux instituts qui travaillent d'arrache-pied pour confirmer les cas. C'est l'Institut Pasteur Dakar qui se trouve à Conakry, ainsi que une unité laboratoire mobile de l'Union européenne qui se trouve dans la région de Kiguédégou. Pour le Libéria, nous avons aujourd'hui un total de 20 cas entre suspects et confirmés dans 5 décès. Il n'y a pas eu d'autres cas confirmés dans des pays tels que le Mali, Sierra Leone ou le Ghana. Donc pour l'instant, les cas se trouvent en Guinée et au Libéria.
Quelles sont les dernières mesures prises par l'OMS en collaboration avec ses partenaires ?
Nous avons formé une centaine de personnes afin qu'elles puissent se déployer dans les communautés à la recherche de ces personnes en contact avec des patients infectés afin qu'ils n'infectent pas la communauté. Nous travaillons également avec les communautés touchées afin de les aider à faire des funérailles humaines, mais en même temps des funérailles qui ne provoquent pas des infections parce que la personne décédée peut également transmettre Ebola aux personnes si les frères ou les sœurs ou les parents touchent le corps des personnes décédées.
Apparemment, bientôt, les CDC vont gérer toutes les données sur l'épidémie ?
Exact. Le CDC joue un rôle en créant une sorte de software, de programme informatique, afin de uniformiser toutes les données qu'on rentre sur ce logiciel. Parce que maintenant, si vous voulez, il y a une certaine confusion par rapport au nombre de cas. Donc le CDC va aider les autorités à mettre en place ce software, ce logiciel qui pourrait aider vraiment à ce que tout le monde utilise le même logiciel pour avoir les mêmes informations et pour avoir les mêmes nombres de cas et qu'il n'y ait pas cette confusion par rapport aux chiffres.
Fadila Chaïb de l'OMS.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Cap sur la Côte d'Ivoire, 11 avril 2011, 11 avril 2014. 3 ans depuis que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été capturé à la suite d'une crise post-électorale qui a fait environ 3000 morts.
Aujourd'hui à Abidjan, les Ivoiriens, les militants du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et ceux du RDR, Rassemblement des Républicains, se souviennent. Écoutons le reportage de notre correspondant Germaine Dri.
La journée commémorative de l'arrestation de Laurent Gbagbo donne l'occasion aux populations de se rappeler des atrocités vécues pendant la grave crise qu'a connue le pays. Alphonse Soro, député à l'Assemblée nationale.
On ne peut pas ne pas se retrouver tous les 11 avril pour au moins se rappeler de ceux qui nous ont quittés pendant tout ce combat, pour nous souvenir donc de ces martyrs, de tous ceux qui ont laissé la peau pour l'obtention de la démocratie et l'organisation d'élections ouvertes.
Issiaka Diaby est le président des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Pour lui, l'arrestation de l'ancien président marque la fin des horreurs dans le pays.
Le 11 avril est un grand jour pour nous, les victimes. L'arrestation de Laurent Gbagbo sonne la fin des commissions de crimes les plus graves en Côte d'Ivoire depuis le coup d'État de 1999.
Quant à Sidigui Diassouba, chercheur à l'université de Cocody, le 11 avril constitue un nouveau départ.
C'est la date qui renvoie un peu à l'espoir du peuple ivoirien en un avenir meilleur, un avenir qui rimerait un peu avec un État égalitaire, un État juste et équitable.
Une appréciation que le professeur Gueoun, militant du FPI, ne partage pas.
Nous autres, patriotes, démocrates, ça nous dit beaucoup de choses. Le 11 avril 2011, la France a assassiné la démocratie dans ce pays. La France s'est permis de bombarder la résidence d'un chef d'État en exercice et qui avait été élu régulièrement. Donc pour nous, c'est un jour du souvenir. Pour nous requinquer, nous redonner de la vitalité pour aller de l'avant.
Au quartier général du Front Populaire Ivoirien, ce sont des témoignages qui sont faits par certains cadres du parti fraîchement sorti de prison ou rentré des îles. L'ancienne ministre de la Santé raconte le 11 avril, Christine Ayobi.
Le 11 avril, quand le président a appris qu'il y avait des chars de la France qui venaient vers sa résidence, il a demandé aux militaires qui étaient autour de lui de ne pas combattre parce qu'il ne veut pas de bain de sang. Les rebelles sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont demandé à toutes les femmes de se coucher, les hommes torse nu, tout ce qu'on avait sur nous, ils ont tout pris. Nous ont dépouillé même mon alliance. J'ai des cicatrices là.
Dans le camp des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara, une table ronde a été organisée pour se souvenir des barbaries endurées par les populations et garder ces faits douloureux en mémoire. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger.
Le devoir de mémoire nous fait l'obligation morale de nous souvenir. En un mot comme en mille, on n'a pas le droit d'oublier. Le 11 avril symbolisera à jamais, pour des millions de personnes vivant dans notre pays, la fin d'un long cauchemar dont le souvenir blesse encore notre mémoire.
Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Nous partons maintenant en RDC. Voici les témoignages des 100 citoyens journalistes. Retrouvez leurs messages photos et vidéos sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Richard Kana, citoyen journaliste en Bougement et au Kassai Oriental pour la Voix de l'Amérique. Ce vendredi 11 avril 2014, sous les auspices de la section Droits de l'Homme de la MONUSCO au Kassai Oriental, le réseau provincial de Droits de l'Homme du Kassai Oriental a pu rencontrer le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général-major David Massandi, qui est divisionnaire, le commissaire divisionnaire à nommé comme responsable de la PNC au Kassai Oriental pour une prise de contact, mais aussi l'échange de vues par rapport à l'amélioration de conditions de la sécurité sur toute la province du Kassai oriental. Prenant la parole, Madame Jocelyne Palangue, le chef de section de la MONUSCO, a souhaité la bienvenue à tout le monde, mais surtout remercier le commissaire provincial de la PNC pour avoir répondu à cette invitation, mais aussi les activistes des droits de l'homme du Kassai oriental réunis au sein du REPRODOC, entendez par là réseau provincial des organisations des droits de l'homme du Kassai oriental, qui, au nombre d'une quinzaine, avaient aussi accepté de répondre à cette invitation. En bougement, Richard Kana pour la Voix de l'Amérique au Kassai oriental.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, chez Robin Dorsil et Morgane Guériac en votre compagnie. L'eau et l'assainissement à l'ordre du jour, Morgane, d'une conférence internationale aujourd'hui ici à Washington.
Elle regroupe les ministres de 80 pays en développement, des donateurs et des représentants d'ONG et d'agences internationales. Un rapport de l'ONU sur l'eau, sur l'assainissement de l'eau révèle que près de 125 000 enfants sont morts en 2012, faute d'eau potable et d'hygiène. Timothée Donangmaï a joint l'un des participants à la conférence de Washington, Évariste Kwasi Komlan, chef adjoint des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène de l'UNICEF.
Il y a encore autour de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, malgré que les progrès ont été réalisés dans ce domaine. Et en matière d'assainissement, il y a encore 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services d'assainissement de base. Globalement, on arrive à avoir à peu près autour de 15% des populations qui n'ont pas accès à l'assainissement, qui ne continuent pas à déféquer à l'air libre, ce qui donne un nombre très, très important si on veut essayer à réduire les maladies liées à l'eau et l'assainissement au niveau global.
Est-ce que cette situation s'explique uniquement en termes de manque de ressources?
Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ça. D'abord, l'organisation au niveau des pays et le fait qu'il y a beaucoup de ministères qui gèrent en même temps les questions de coordination, beaucoup de ministères qui gèrent en même temps ce problème, la question d'accès à l'eau et l'assainissement, est un des premiers facteurs. Le second, c'est les ressources financières qui ne sont pas mises à disposition et qui ne sont pas disponibles pour ce secteur, parce que généralement, ce secteur, ce que je peux dire, le parent pauvre de tous les autres secteurs qui ne reçoit pas l'attention nécessaire dans la plupart des pays. Et le troisième élément, c'est la capacité, la faible capacité qui existe au niveau des pays, les ressources humaines et techniques qui existent au niveau des pays pour pouvoir contribuer à ça. Et la toute dernière, si je peux dire, c'est aussi les problèmes liés à la durabilité des services et au suivi et évaluation des services mis à disposition des pays.
Quel est l'enjeu de cette conférence de Washington par rapport à tous ces problèmes que vous avez énumérés?
Heureusement qu'on a ce partenariat au niveau global qui s'appelle Sanitation and Water for All et dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'aide dans les pays en voie de développement. Ce qui s'explique par le fait qu'il faut qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe dans les pays et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les investissements au niveau de pays. Et Sanitation and Water for All nous aide dans trois domaines spécifiques. Le premier, c'est comment est-ce qu'on améliore la planification, le processus de planification au niveau de pays. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut amener l'eau et l'assainissement à un niveau politique le plus élevé. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer par les données évidentes, probantes, pour montrer que ce secteur peut avoir beaucoup plus d'impact sur les autres secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'alimentation, etc.
Voilà, c'était Évariste Kwasi Komlan, chef adjoint des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène de l'UNICEF. Et nous accueillons en studio Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, chérubin.
Alors, football, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions.
Et c'est une finale avant l'heure. Le Real de Madrid affrontera le Bayern de Munich de Pep Guardiola dès les demi-finales de la Ligue des Champions. Comme en 2012, tenant du titre privé de Thiago Alcantara, le Bayern a gagné 11 duels sur 20 contre le Real. Chérubin, l'autre demi-finale opposera l'Atlético Madrid à Chelsea, qui fait partie du dernier carré pour la deuxième fois en 3 ans. Alors, petite anecdote, chérubin, savez-vous qui est le gardien de l'Atlético Madrid ?
Pas exactement, c'est qui ?
Alors, c'est le Belge Thibaut Courtois. Son nom ne vous dit peut-être rien. Et bien, en tout cas, il a été prêté par les Anglais aux Espagnols, justement. Et alors, dans le contrat qui lie les deux clubs, l'Atlético devrait s'acquitter d'une somme de 3 millions d'euros si le joueur est aligné face à son club propriétaire, donc Chelsea. Alors, ça n'a pas du tout plu à l'UEFA, qui est monté au créneau et qui menace de sanctions.
En Ligue Europa ?
Alors que le FC Séville sera opposé à Valence, le Benfica Lisbonne affrontera la Juventus de Turin. On rappelle, chérubin, que la finale aura lieu justement à Turin.
Parlons de la CAN 2015, Nicolas. Les éliminatoires débutent ce samedi à Nouakchott.
La Coupe d'Afrique qui se jouera au Maroc l'année prochaine. Les Morabitoun qui affrontent l'île Maurice. Le vainqueur de la double confrontation rejoindra les 27 pays qualifiés pour le deuxième tour. Et de son côté, l'Érythrée a déclaré forfait au profit du Soudan du Sud.
On a quelques résultats de la NBA.
Au moins celui de la rencontre entre deux équipes rivales du Texas. Les Spurs de San Antonio ont battu les Mavericks de Dallas 109-100. Et dans l'autre match de la soirée, Denver s'est imposé d'un petit point sur le parquet de Golden State 99-100. Les Warriors qui restent à la 6e place de la Conférence Ouest.
Nicolas Pinault, son petit secret, il joue très bien au foot.
Voilà, on passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Anthony B est l'un des artistes jamaïcains les plus populaires en Europe. Une de ses chansons préférées de Roger Muntou, bien sûr, Enter the Kingdom of Zion.
Voilà, Anthony B, que ça me rappelle des souvenirs puisque j'avais vu Anthony B en concert quand j'étais étudiante à Montpellier.
Donc il faut dire à Gabi, parce que là...
Gabi, oh, c'est bien, merci. Anthony B, c'est bien, il faut écouter. Et d'ailleurs, ça va te plaire, de Clarkstown, où il a passé son enfance.
Exact, contrairement à Gabi, à d'autres chanteurs, il ne passe pas ses premières années à Kingston, en Jamaïque, hein, mais à la campagne plutôt. Son amour de la nature et de Zion viennent bien sûr de cette époque. Malgré le succès, Anthony B reste un artiste engagé dont les références sont Peter Tosh et Marcus Garvey. Alors, Morgan, tu étais en train de m'expliquer là que Zion et le kingdom religieux, c'est différent, n'est-ce pas? C'est ça un peu la discussion, hein, parce que je vois Gabi dire c'est différent, Zion ou...
Je n'aime pas trop m'aventurer dans ce que je ne connais pas.
Écoute, ça c'est Rastafari, c'est quand même très important. Hein, voilà. C'est toute une philosophie.
C'est important, mais alors moi, je me garderais bien d'aller définir exactement qui est quoi. Il faudrait que j'aille consulter mes tablettes avant de commenter.
Je sais que vous appréciez beaucoup Anthony B. Et merci Roger Muntou.
De rien, Gabi.
Ok, Roger Muntou, Morgan est avec nous tous les soirs dans le RM Show. 20h, temps universel.
Ah oui, oui, mais absolument.
Merci Morgane, merci de dire l'entête.
Si ok, les gars, c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Lionel Gaïma. Nous avions notre cher ami Dryden à la console technique. Laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Ici Gabi
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.